bonjour à tous et à tous et merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Rosine Monezero et Mamadou Oumpa est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Mamadou.
Bonjour Rosine, salut à tous. Cette semaine, nous parlons de la prophylaxie pré-exposition, connue sous le sigle PrEP. La PrEP est l'une des méthodes de prévention du VIH-Sida.
La PrEP est prise par les personnes qui ne sont pas encore infectées, donc ils prennent ça pour prévenir l'infection. Pour l'instant, c'est surtout Truvada qui est le plus connu, qui consiste en deux médicaments antirétroviraux.
L'efficacité de la PrEP a été démontrée suite à plusieurs tests menés en Europe. Des études sont en cours dans plusieurs pays africains pour évaluer son importance sur le continent.
C'est ce que nous voulons démontrer et utiliser donc les résultats de cette étude là comme un élément de plaidoyer auprès donc de nos gouvernants pour faire comprendre que nos pays ont intérêt donc à intégrer cette stratégie là dans leurs différentes politiques.
Comment utilise-t-on la PrEP? Pourquoi est-elle encore rare? Est-ce la solution tant attendue contre le VIH-Sida? Vous aurez toutes les réponses dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité.
Et pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Mamadou.
En Afrique du Sud, depuis le début de l'année, 36 personnes sont décédées de la listériose, une infection d'origine alimentaire.
C'est en effet ce qu'a annoncé le ministère sud-africain de la Santé le 5 décembre dernier. Nous recherchons toujours la source de ces contaminations, a ajouté le ministère de la Santé, qui examine actuellement des échantillons de nourriture prélevés au domicile des malades.
Eh bien Firmin, que sait-on sur cette maladie?
Mamadou, la listériose est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmise de l'animal à l'homme, le plus souvent par l'intermédiaire des aliments. Elle provoque généralement de la fièvre, des vomissements et des diarrhées et se traite par antibiotiques. Les sujets les plus sensibles sont les personnes âgées, les nouveau-nés et les femmes enceintes. Pour éviter la listériose, il faut respecter les règles d'hygiène. Le lavage régulier des mains, l'utilisation de l'eau potable pour les usages domestiques, la consommation à chaud des viandes et autres aliments.
Lutte contre la fièvre jaune au Nigeria, le pays vient d'obtenir plus d'un million de doses de vaccins.
Oui, ces vaccins ont été fournis par le groupe international de coordination pour l'approvisionnement du vaccin anti-amaril. Ils serviront dans une campagne de vaccination qui a débuté le 2 décembre dernier pour endiguer la flambée de fièvre jaune qui sévit actuellement au Nigeria. Alors qu'il y avait un seul cas confirmé en août dans ce pays, on compte maintenant 30 dans les états de Kogi, de Kwara, de Kano et de Zamfara.
Alors Firmin, y a-t-il des raisons de craindre une propagation de la maladie?
Oui, Mamadou, avec près de 200 millions d'habitants, le Nigeria présente les risques de propagation considérables, surtout qu'il partage ses frontières avec plusieurs pays de la région. Or, l'année dernière, l'on a assisté à la plus grande flambée de fièvre jaune qui ait frappé l'Angola et la République démocratique du Congo en 30 ans. Il est donc important de surveiller les migrations des populations et continuer à vacciner les populations.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
La lutte contre le sida stagne, voire faiblit en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est le constat d'une coalition d'associations non gouvernementales.
Coalition en plus, c'est le groupe d'ONG qui a publié un communiqué à l'intention des participants à la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA, organisée à Abidjan du 4 au 9 décembre dernier. Selon cette coalition, la mortalité liée au VIH-Sida en Afrique de l'Ouest et du Centre est plus du double de ce qu'elle est dans le reste de l'Afrique. Elle note également que la mortalité des adolescents a augmenté d'un tiers en 5 ans. Un scandale selon ces associations ainsi que pour l'UNICEF.
Eh bien Firmin, qu'est-ce qui explique cette situation en Afrique de l'Ouest et centrale?
Cette situation s'explique notamment par le manque d'accès aux médicaments. 1,3 million de personnes séropositives restent en attente de traitement, révèle Coalition Plus. Tout le monde est responsable, ajoute Marie-Pierre Poirier, directrice de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans une interview à l'AFP. Selon elle, le soutien des bailleurs de fonds internationaux nationaux n'est pas à la hauteur des besoins de la région et les gouvernements doivent accorder la priorité à la lutte contre le sida, même si leurs ressources sont limitées.
Une situation préoccupante, Firmin. Et pour terminer cette page actualité, écoutons Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU SIDA, lors de la conférence internationale sur le SIDA et les infections sexuellement transmissibles ICASA 2017 à Abidjan. Notre correspondant Ibrahima Tunkara lui a demandé quels sont les principaux défis qui se posent aujourd'hui dans la lutte contre le SIDA. Écoutez sa réponse.
Le plus grand défi, c'est comment protéger les jeunes filles et particulièrement les femmes. On constate malheureusement que lorsqu'on est en train de gagner sur toutes les autres couches, les adolescentes meurent beaucoup plus que les autres catégories de population. Et pour le faire, il faut nécessairement amener les hommes. Les hommes ne sont pas testés, les hommes n'ont pas accès aux services, les hommes utilisent le traitement que très tardivement, ce qui crée un cycle vicieux de l'infection. Il faut faire en sorte que l'Afrique produise son médicament, il faut faire en sorte qu'il y ait moins de stigmatisation, moins de discrimination et que les populations clés, que ce soit les prisonniers, que ce soit les personnes qui s'injectent la drogue ou que ce soit les migrants ou que ce soit les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes ou les travailleurs du sexe, aient accès aux services.
Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude quant à la réduction du financement?
Mais bien sûr, moi je pense que c'est inacceptable quand on commence à voir des résultats et que les pays donateurs commencent à réduire les ressources. Mais je suis persuadé que le monde saura réagir.
C'était Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU SIDA.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comme nous vous l'annoncions au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de la prophylaxie pré-exposition, la PrEP en sigle. Cette méthode consiste à prendre des médicaments avant les rapports sexuels et les pratiques à risque d'infection du VIH-SIDA. Une dizaine d'études a démontré l'efficacité de la PrEP dans la réduction de la transmission du VIH. L'OMS recommande désormais cette prophylaxie comme option préventive contre le VIH-SIDA. Mais attention, la PrEP n'est pas une solution miracle contre la maladie. Le docteur Béa Valstek de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique nous a expliqué pourquoi. C'était lors de la 10e conférence européenne de médecine tropicale. Tout d'abord, nous lui avons demandé en quoi consiste la PrEP.
C'est une méthode pour prévenir le virus du VIH ou le virus qui donne le sida. C'est vraiment un médicament pour prévenir, c'est une prévention. Donc c'est très différent du médicament qu'on prend après qu'on est infecté. La PrEP est prise par les personnes qui ne sont pas encore infectées et qui ne veulent pas être infectées, donc ils prennent ça pour prévenir l'infection. On prend un médicament seulement, qui pour l'instant c'est surtout Truvada, qui est le plus connu, qui consiste en deux médicaments antirétroviraux, le tenofovir et le emtricitabine.
Comment ça marche concrètement et puis est-ce qu'on peut s'en procurer facilement dans n'importe quelle pharmacie?
Alors comment ça marche le médicament quand on n'est pas encore infecté, bien sûr? Ben, le médicament, ça évite en fait le virus de s'attacher à une cellule et d'entrer dans le corps et de commencer à faire ses dégâts dans le corps humain. Donc si on prend le médicament, c'est comme on protège les cellules qui sont normalement, qui sont vulnérables, qui sont infectées, on protège ces cellules et le virus ne peut plus entrer dans les cellules. Et donc il n'y aura plus d'infection avec le VIH.
Alors, vous nous rappelez, on prend quel type de médicament? C'est le Truvada?
C'est le Truvada, donc de façon orale. Pour l'instant, on fait des études aussi avec d'autres formes de PrEP, pour les femmes par exemple, des anneaux vaginaux, ou même il y a des études qui sont en train d'expérimenter la PrEP quand c'est injecté. Mais pour l'instant, ce qui est bien étudié, ce qu'on sait qui marche bien, c'est la PrEP Truvada oralement. C'est une pilule bleue qui consiste en deux médicaments antirétroviraux.
Alors, est-ce que n'importe qui peut aller dans une pharmacie se procurer ce médicament ou ça doit être sur une prescription médicale?
Non, ça doit être sur prescription médicale. On ne peut, c'est pas comme un préservatif. Un préservatif qui est aussi une méthode très efficace contre le VIH. Un préservatif, là, on va dans une pharmacie, n'importe qui peut aller chercher des préservatifs, peut l'utiliser. La PrEP, pas seulement il faut une prescription médicale pour obtenir ce médicament-là, mais il faut un suivi médical chaque 3 mois.
Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait prescrire à certains et pas à d'autres, alors que tout le monde a besoin de se protéger?
En fait, la PrEP, c'est pas innocent. C'est quand même un médicament antirétroviral qui a aussi des effets secondaires, qui est très cher, etc. Donc, on réserve ça pour les gens qui courent le plus de risques pour attraper le VIH.
Par exemple,
en Europe, c'est surtout les hommes qui ont des sexes avec les hommes, les gens qui s'injectent avec des drogues intraveineuses et des immigrants de l'Afrique. En Afrique, bien sûr, vous connaissez qu'il y a des pays où presque tout le monde est à risque. En Afrique du Sud, par exemple, où même les femmes, les jeunes femmes sont tous très à risque pour le VIH.
Est-ce que la PrEP est déjà homologuée et reconnue dans le monde? Est-ce que les instances comme l'OMS et d'autres reconnaissent la PrEP comme méthode de prévention contre le VIH?
L'OMS, oui. L'OMS même recommande maintenant la PrEP pour tout le monde qui est à haut risque pour être infecté par le VIH. Avant, ils disaient, oui, il faut au moins, dans un pays qu'il faut, ou dans une population, il faut au moins une incidence donc de 3%, donc 3 nouvelles infections par 100 personnes par année. Maintenant, ils ont relâché ça un petit peu. Ils ont dit que maintenant, si la personne se sent à risque pour le VIH, ça suffit pour aller demander la PrEP. Donc, en fait, du côté OMS, il y a de claires recommandations pour la PrEP, en fait. Mais toujours, il faut insister aussi, pas pour laisser tomber maintenant tous les autres moyens de prévention. Donc, c'est vraiment, on recommande la PrEP comme élément en plus dans
les instruments de prévention.
Dans les instruments de prévention. Donc, on ne va pas dire, maintenant, on va laisser le préservatif et on va recommander la PrEP seulement. On recommande la PrEP comme une des méthodes qu'on a pour prévenir le sida.
Quels sont les risques qui sont associés à cette prophylaxie-là? Est-ce que, d'une part, est-ce qu'il y a des effets secondaires et sinon lesquels? Et d'autre part, est-ce qu'il y a d'autres types de risques associés à ceux qui seraient tentés de prendre uniquement la PrEP?
Oui, effectivement. Tout d'abord, les effets secondaires, est-ce qu'il y en a? Oui. En général, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pas beaucoup quand les gens qui prennent la PrEP ont des effets secondaires. Aussi, ce n'est pas des grands effets secondaires. Ce n'est pas très grave. La plupart des gens qui prennent plein de troubles gastro-entérologiques, donc des douleurs d'estomac, un peu de diarrhée, ça peut arriver aussi. Il y a quelques personnes qui a quand même, la PrEP a un effet néfaste sur les reins. Donc c'est pour ça aussi que quand on va chaque 3 mois chez le médecin, il faut toujours faire des tests pour voir si les reins sont encore fonctionnels et que la PrEP n'a pas d'effets secondaires sur les reins. Ça, c'est du niveau purement les effets secondaires. Mais s'il y a des risques avec la PrEP, si on prend seulement la PrEP, je pense que la plus grande risque, c'est les autres IST. Parce que la PrEP protège très, très, très bien contre le VIH. Mais ça ne protège pas du tout contre les autres IST. Alors, ça ne protège pas contre la syphilis, le gonorrhée, la chlamydia, le virus du herpès, le virus d'hépatite aussi, le virus d'hépatite C. Donc, ça, c'est quand même assez important pour savoir et c'est une raison, une très grande raison pour continuer à prendre le préservatif et pour garder la PrEP seulement comme une sécurité en plus.
Alors, c'est beaucoup plus pour les groupes à risque comme les homosexuels. Est-ce qu'il y a une différence dans la prise du médicament et dans les faits entre les homosexuels et les hétérosexuels? Les effets sont les mêmes ou alors l'efficacité est plus effective chez les homosexuels?
Mais en général, quand on le prend bien, c'est efficace. Ça, les études ont montré. Ça, c'est sûr. Si on observe bien, si on prend bien selon les règles, c'est efficace. Mais il est que ça marche plus vite ou le taux de médicaments là où ça doit fonctionner est plus vite atteint chez les homosexuels que chez les femmes, par exemple. C'est pour ça qu'on dit, pour les femmes, il faut prendre une pilule, la PrEP, chaque jour. Il faut commencer au moins une semaine avant de commencer à avoir les rapports sexuels et il faut continuer aussi après. Pour les hommes qui ont des rapports avec les hommes, dont les homosexuels, ça peut marcher un peu plus vite. Donc pour eux, on dit qu'eux, ils peuvent seulement prendre pendant les périodes qu'ils ont des rapports sexuels à risque. Et là, il faut qu'eux, ils commencent 2 jours avant ou bien de prendre un jour avant deux pilules à la fois et continuer deux jours après l'épisode de rapport sexuel à risque.
Est-ce que c'est un médicament, c'est une prophylaxie qui marche à 100% ou alors est-ce qu'il y a des cas où ça n'a pas marché et quelle est l'efficacité de cette méthode?
Je voudrais commencer à dire que en fait la PrEP est très efficace. Dans les études, on a montré une efficacité de 86%. Maintenant, quand on a commencé à donner la PrEP pour les gens en dehors de l'étude, on a même vu une efficacité qui va au-delà de ça jusqu'à 90%, par exemple. 100%, non. Il n'y a rien qui est 100%. Le préservatif, qui est très, très, très efficace aussi, n'est pas 100% non plus. Hein? On peut avoir un petit accident avec un préservatif. Alors, pour la PrEP, si on ne la prend pas bien, là aussi, on peut avoir un accident.
Précisons peut-être que nous parlons là du Truvada uniquement parce qu'il y a d'autres méthodes de PrEP.
Oui, je parle ici de Truvada parce que les autres méthodes sont encore en étude. Mm-hmm. Donc là, c'est surtout, par exemple, quand je dis c'est recommandé par l'OMS, là on parle encore justement de la PrEP pour prendre comme pilule. Comme pilule Truvada. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont infectés quand ils ont pris la PrEP? Oui. Et la plupart de ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas bien pris la pilule. Par exemple, qui n'ont pas attendu une semaine ou qui n'ont pas pris avant, qui n'ont pas pris après et donc qui n'étaient pas très observants. Il y a un autre cas, mais ça, il faut avoir de très malchance, mais bon, ça peut arriver qu'on est confronté avec un virus qui est déjà résistant au Truvada. Là aussi, dans cette situation-là, on peut avoir la malchance que ça ne marche pas. Et c'est pour ça aussi que c'est extrêmement important que quand on prend la PrEP, on fait des tests de VIH très régulièrement. Parce qu'on ne peut pas risquer, s'il y a quelqu'un qui est sous Truvada et qui en même temps est infecté, par exemple parce qu'il ne prend pas bien son médicament, alors on risque d'introduire encore plus de résistance.
Alors, peut-être un dernier mot à ceux qui nous écoutent un peu partout en Afrique et qui verraient peut-être en la PrEP un espoir pour avoir désormais des rapports sexuels et ne plus être infectés par le VIH. Que leur diriez-vous?
Ben écoute, moi je dirais que la PrEP c'est formidable. Hein? Ça nous donne un outil supplémentaire. C'est pas l'outil qui va maintenant combattre le sida à lui seul, mais ça nous donne un outil supplémentaire pour combattre le sida en Afrique. Ça, c'est vraiment très important. Une autre chose, c'est aussi que, en fait, il faut aussi dire que la PrEP, c'est pas pour prendre ça toute la vie. La PrEP, on peut prendre ça pendant une période de la vie, une période où on est sexuellement actif, on court des risques. Tandis que, bien sûr, vous savez, quand on est infecté, on n'a pas de choix. On doit prendre les antiviraux pour le reste de sa vie.
Nous remercions le docteur Béa Volsteck pour toutes ses explications.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Même si la PrEP est une méthode efficace, comme vient de nous le confirmer notre invité, elle ne fait pas encore partie des stratégies les plus utilisées en Afrique. Pourquoi? Eh bien, non seulement parce que le coût de ces médicaments reste très élevé, mais aussi parce que les gouvernements africains n'ont pas encore compris l'intérêt d'adopter cette stratégie. Néanmoins, des études sont en cours en Afrique pour évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de cette prophylaxie. L'un des pays abritant l'étude, c'est la Côte d'Ivoire, l'ONG Espace Confiance, basée à Abidjan a été choisi pour mener cette étude. Le docteur Camille Anouma est le directeur de cette ONG. Depuis Abidjan, il nous a apporté plus de précisions.
Espace Conscience est une organisation non gouvernementale composée de personnes engagées dans la lutte contre le sida, de professionnels de la santé, mais aussi de nombreux bénéficiaires, c'est-à-dire les MSM et les TS et les usagers de drogue. Espace Conscience a été créé en octobre 2004. Par le staff de la clinique de conscience, qui était donc un projet de recherche dans le cadre donc de la description de l'épidémiologie du VIH chez les travailleuses du sexe. Et donc notre mission, c'est de travailler à l'amélioration de l'accès des populations les moins vulnérables aux services de prévention et de prise en charge des IST et du VIH, et également donc développer un plaidoyer pour le respect des droits humains des populations les moins vulnérables.
Votre ONG, donc Espace Confiance, a été choisie pour mener des études d'efficacité de la prophylaxie pré-exposition comme moyen de lutte contre le VIH-Sida. Alors, racontez-nous, comment est-ce que votre ONG a été choisie?
Alors, on va participer à une étude de faisabilité et d'acceptabilité de la PrEP sur les hommes ayant un rapport sexuel avec des hommes à Abidjan. Mais cette étude, en fait, est une étude qui concerne plusieurs pays. C'est une étude multicentrique, donc qui concerne également le Burkina, le Mali et le Togo. Donc, pourquoi nous avons été choisis? Parce qu'on est une association qui est engagée dans tout ce qui est accès donc des populations clés, et notamment des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, au service de prévention et de prise en charge des IST et du VIH. Donc, sur ce domaine, nous sommes précurseurs en Côte d'Ivoire, et donc les résultats qui ont été obtenus par notre association en termes de disponibilité des ARV, suivi des patients, baisse la prévalence du VIH dans certains groupes et notamment chez les homosexuels. Donc c'est tous ces éléments-là et avec un certain savoir-faire reconnu à la structure qui a été déjà engagée dans pas mal de projets de recherche. Ce sont tous ces éléments-là qui ont amené nos partenaires, donc l'IRD et la NRS en France, de nous contacter donc pour être membres de cette équipe de recherche pour mener cette étude multicentrique-là.
Parlons justement donc de cette étude-là. En quoi consistera-t-elle exactement? Qu'est-ce qui va se passer? L'étude est menée donc par qui et comment ça se déroulera?
En amont de cette étude, en fait, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait le suivi pendant plus de 2 ans d'un groupe d'homosexuels, à peu près 100. Et donc, dans ce groupe-là, on s'est rendu compte que, avec les moyens actuels, c'est-à-dire le dépistage du VIH tous les 3 mois et le dépistage des IST tous les 3 mois, on arrivait quand même à avoir un taux d'incidence relativement assez élevé, autour de 6% personnes année. Or, les recommandations de l'OMS disent que quand vous êtes dans une situation comme celle-là, vous devez adjoindre à vos moyens de prévention, donc en dehors donc du préservatif, etc., la prophylaxie pré-exposition qui consiste donc à donner des antirétroviraux pour des personnes qui savent qu'elles iront s'engager dans des rapports potentiellement à risque. Donc ce que nous allons faire au cours de cette étude, c'est que clairement, donc, nos participants dans cette cohorte-là auront, pour ceux qui le désirent, accès aux antirétroviraux qu'ils prendront soit de façon occasionnelle, soit de façon continue, à leur choix. Et donc, on va observer donc, dans ce groupe-là la possibilité donc, pour ces personnes-là d'être observantes, de bien accepter les médicaments et d'être réguliers.
Quels sont les résultats attendus et quels peuvent être les bénéfices à court, moyen et à long terme de cette étude-là pour les personnes vivant avec le VIH?
L'efficacité de la PrEP, elle a été déjà faite dans plusieurs pays, notamment en Angleterre, en France, etc. Mais que la question qu'on se pose, c'est d'abord, est-ce que c'est un besoin réel pour les hommes ayant un rapport sexuel avec les hommes en Afrique subsaharienne? C'est la première question. Si c'est un besoin réel, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'ils peuvent l'accepter? Donc, au cours de cette étude, c'est ce que nous voulons démontrer et utiliser donc les résultats de cette étude là comme un élément de plaidoyer auprès donc de nos gouvernants pour faire comprendre que, comme le dit l'ONU SIDA aujourd'hui, la PrEP doit également faire partie des moyens de prévention qui sont offerts aux populations et que, clairement, c'est vrai, ça a un coût, je crois que c'est incontestable, mais que et aussi il y a un gain en termes de santé, est avéré et prouvé, et que donc nos pays ont intérêt donc à intégrer cette stratégie-là dans leurs différentes politiques et faire en sorte que là où on se bat pour dire qu'il faut que toutes les personnes qui sont séropositives puissent avoir accès au traitement, il faut également qu'on puisse comprendre que parallèlement, on doit se battre pour que on fasse en sorte qu'il y ait le moins possible de nouvelles infections. Donc c'est un peu ça le but que nous nous sommes fixés. Et nous pensons que les populations homosexuelles, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, sont des populations avec une incidence assez élevée. Et ce moyen-là permettrait donc de réduire de façon drastique cette incidence.
On imagine que vous avez recruté un certain nombre de personnes qui vont participer à l'étude. Comment avez-vous procédé au recrutement? Quelles sont les motivations pour la plupart de ceux qui viennent participer à cette étude? Et est-ce que vous leur avez clairement expliqué les risques potentiels qu'il y a à s'engager dans cette étude-là?
Alors, on a déjà une cohorte, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnes qui sont des homosexuels, qui sont des personnes qui fréquentent notre clinique à Bietri, et auxquelles on a proposé d'abord, dans un premier temps, de rentrer dans une étude donc, qu'on appelait la cohorte MSM, en leur expliquant très clairement qu'ils allaient avoir un suivi sur au moins 3 ans, et au cours de ce suivi, ils auraient donc à avoir des dépistages VIH, du dépistage pour les hépatites, du dépistage systématique des IST, la disponibilité de condoms, la disponibilité de préservatifs, et que derrière, on se proposait de voir dans quelle mesure on pourrait rendre disponibles les ARV pour ceux qui éventuellement pensaient s'engager dans des relations sexuelles à risque. Donc, les clients sont informés. Il y a les pères éducateurs qui travaillent avec nous. Nous allons rentrer dans la phase active. Donc, pendant la phase active, tous ceux qui vont être revus donc, au cours du suivi auront l'information selon laquelle les ARV sont disponibles et que, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent les prendre. Et bien sûr, c'est avéré, il n'y a aucun risque, c'est suffisamment toléré, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme je l'ai dit, il y a eu bien d'autres études avant la nôtre dans d'autres pays qui ont montré que c'était toléré. Ce sera vraiment leur désir à eux de le faire ou de ne pas le faire. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui nous permettront de dire derrière, c'est une méthode qui est acceptée ou bien ce n'est pas une méthode qui est acceptée et que nous pensons qu'on peut passer à l'échelle au niveau d'un programme national. Et après, c'est au gouvernement, parce que comme je le disais tantôt, ça a quand même un coût, de décider si oui ou non, cette méthode-là peut être disponible pour ces populations ou comme également pour d'autres populations qui éventuellement estiment qu'elles s'engagent dans des rapports à risque.
Nous remercions le docteur Camille Anouma qui nous répondait depuis Abidjan en Côte d'Ivoire.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Amon Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France.
Bonjour, docteur. Je suis Francine Kaindo-Vaheni, habitante de la ville d'Ebene. J'aimerais savoir pourquoi certaines femmes accouchent des jumeaux ou plusieurs enfants à la fois. C'est les fêtes du père ou de la mère. Peut-on éviter cela?
Ce que je peux répondre est que notre société a évolué et les femmes d'aujourd'hui procréent de plus en plus tardivement du fait d'un désir de maternité qui lui-même est assez tardif. Or, on sait très bien que l'âge un peu plus avancé favorise les grossesses multiples, car après 35 ans, les ovulations multiples sont fréquentes chez les femmes. Par ailleurs, les traitements de plus en plus administrés dans le traitement de la stérilité, très souvent favorisés par un désir de maternité tardif, à savoir des traitements visant à provoquer une stimulation ovarienne, des traitements dans le cadre de la fécondation in vitro, de la procréation médicalement assistée, tous ces traitements-là contribuent à la multiplication des embryons et à des grossesses multiples. Ce phénomène n'est en aucun cas le fait du père ni encore de la mère, mais est très souvent favorisé par le contexte sociétal actuel avec ce désir de maternité très souvent et de plus en plus tardif. On ne peut éviter l'arrivée de jumeaux dans une famille, dans un couple, car il y a une part de hasard, mais connaissant les causes de ces grossesses multiples, le phénomène peut être limité dans la société.
N'oubliez pas, si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web voafrique.com et sur nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend fin Votre Santé, Votre Avenir. Cette édition était consacrée à la prophylaxie pré-exposition, une méthode de prévention du VIH-SIDA. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le Dr Béa Voulstek, médecin et spécialiste du SIDA à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Elle nous a expliqué les traitements administrés dans le cadre de la PrEP pour éviter le SIDA, ainsi que les limites de cette prophylaxie. Nous avons également écouté le Dr Camille Anouma, coordinateur de l'ONG Espace Confiance basé en Côte d'Ivoire. Il nous a parlé des tests de faisabilité de la PrEP menés par son ONG. Des tests dont les résultats devraient servir de base à un plaidoyer pour inciter les gouvernements africains à inclure la PrEP comme stratégie de lutte contre le VIH-Sida. Nous leur disons tous merci.
Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Péro Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Georges Léonard Stagno et de Sidra Planklin qui était à la console. À la présentation, je suis Mamadou Oumpa et j'étais en compagnie de
Rosine Mounezero.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car
votre santé,
c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.